passage, un court passage dans le livre du prophète Habacuc. Habacuc au chapitre 3. Prière de Habacuc le prophète sur Chiglionoth. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré et j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Tout d'abord, nous voulons lire juste ce verset. Je pense lire encore après quelque chose dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Je ne sais pas si chacun connaît le prophète Habacuc et sa grande douleur et sa grande tristesse qui l'a amené à poser quelques questions à son Dieu, à l'Éternel. Il avait vu que dans le peuple d'Israël, où il habitait, où il était, que dans ce peuple, il y avait beaucoup de désordre, et non seulement de désordre, beaucoup d'infidélité. Il y avait beaucoup de mal. Il y a de la rébellion contre Dieu. Il avait vu tout cela. Il a demandé à Dieu, « Mais comment est-ce que tu peux laisser aller tout cela ?» Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Et quand nous lisons ces paroles, nous n'en avons pas fait, mais dans les premiers chapitres, c'est ainsi que le prophète Habacuc pose des questions et Dieu donne des réponses. Nous pouvons voir aussi faire une certaine comparaison avec nos temps aujourd'hui. Là, dans le peuple d'Israël, c'était vraiment de l'infidélité. Il y avait beaucoup de mal. Et cette rébellion contre Dieu, ce mépris aussi de ce que Dieu avait dit. Et que nous regardons aujourd'hui dans la chrétienté, dans ceux qui se nomment d'après le nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, qui s'appellent des chrétiens, nous voyons la même chose. Nous en sommes tristes. Cet Habacuc, cet homme, il était triste, attristé, mais il avait aussi un Dieu auquel il pouvait poser des questions. Il l'a fait en toute confiance. Dieu lui donne la première réponse, une réponse que Dieu dit, « Eh oui, j'aurai ma réponse, j'enverrai un peuple plus fort que le peuple d'Israël, et alors ce peuple qui viendra, il sera... » comme une verge contre mon peuple. Je vais châtier mon peuple. Je ne laisse pas toujours les choses aller comme elles sont. Je vais m'arrêter là quant à ce que nous lisons dans les premiers chapitres de Habacuc. Ici, dans le troisième chapitre, nous avons lu... que Habacuc dit, « Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré. J'ai eu peur. J'ai peur pour mon peuple. » Et je ne sais pas si en français on peut le dire aussi, mais en allemand, nous avons, dans ce passage, nous avons le mot « crainte », non pas le mot « peur ». J'ai de la crainte. J'ai une crainte parce que je vois ce que Dieu va faire. Que mon peuple va être puni, va être châtié. Quand nous pensons à nos temps, nous savons bien que le Seigneur n'intervient pas encore. Il pourrait intervenir, nous nous posons peut-être aussi la question, pourquoi est-ce qu'il laisse tant de choses aller? Et chers amis, même au milieu des croyants qui disent qu'ils veulent suivre le chemin du Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas là aussi bien des choses qui ne peuvent pas plaire au Seigneur? Et le Seigneur laisse aller ces choses? Il y a tant de mal, il y a tant de rébellion intérieure peut-être, d'opposition, tout cela existe malheureusement. Et le Seigneur, il ne répond pas. Il ne répond pas en jugement. Un jour, il va répondre, c'est certain. Mais ici, Habakkuk dit, j'ai de la crainte. J'aimerais bien maintenant changer ça un petit peu, la pensée. Il a eu de la peur, il a eu de la crainte, parce qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver à son peuple. Chers amis, est-ce que nous avons de la crainte? Non pas que nous avons peur que le Seigneur nous punisse, non mais que nous avons aussi une crainte, une vraie crainte de déplaire au Seigneur. Disons peut-être encore le dernier verset du chapitre précédent. Là, il est dit, « L'Éternel est dans le palais de sa sainteté. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Est-ce que nous connaissons cela? Nous pouvons aussi nous poser cette question. Est-ce que nous connaissons ce silence devant le Seigneur? Une silence où nous n'avons plus rien à dire, où nous ne pouvons plus exprimer des pensées inappropriées parce que nous avons affaire avec Dieu. N'est-ce pas que quelquefois, ça peut arriver qu'on dise tout simplement quelque chose, qu'on veut quelque chose qui ne peut pas plaire au Seigneur. Ayons crainte, une vraie crainte de Dieu. Une crainte de Dieu qui a de la révérence et du respect devant la parole de Dieu. Nous avons aussi affaire avec un Dieu saint. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons cela. Aussi notre Dieu est un Dieu saint. Il est un feu. Là, il nous regarde, il nous voit, il nous connaît. Il voit aussi tout ce que nous avons. Non seulement ce que nous disons, il sait aussi ce que nous pensons, et il sait aussi ce que nous pensons de nous, il sait aussi quelle est notre attitude, non seulement le comportement extérieur, peut-être là nous pouvons bien cacher quelque chose, mais devant Dieu on ne peut rien cacher. Alors ayons aussi cette crainte de déplaire au Seigneur. Nous avons chanté dans notre cantique que nous voulons aimer le Seigneur, et alors on sait que nous avons chanté dans cette deuxième strophe quelque chose du Seigneur lui-même qui vraiment peut nous amener à avoir une 68. Ce que le Seigneur a fait pour nous, comme il s'est montré pour les tiens, tu connus la douleur. Suprême, tu souffris, ô Jésus, et fus anathème. Est-ce que nous pouvons encore dire quelque chose qui ne lui plaît pas, quand nous avons cela vraiment sur notre cœur, que le Seigneur a souffert pour nous, qu'il était anathème, c'est-à-dire il était là en portant le jugement que nous avions mérité. Et alors, si c'est ainsi que nous comprenons cela, nous avons aussi de la vraie crainte de Dieu, la vraie crainte de faire quelque chose qui déplaît au Seigneur, qui déplaît à Dieu le Père aussi. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années, dit-il encore. C'est une prière. Seigneur, ravive. Et nous nous sommes souvent occupés aussi de ce qui se trouve dans notre cœur, ce qui se trouve dans nos rassemblements, ce qui se trouve parmi nous tout généralement. Est-ce que nous n'avons pas besoin aussi d'être ravivés? Est-ce qu'on peut dire ça, ravivés? Être ravivés, oui. C'est-à-dire que le Seigneur donne un essor à nos cœurs, que dans la contemplation du Seigneur Jésus et de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, nos cœurs brûlent. Dernier verset que nous avons chanté tout à l'heure, que vraiment nos cœurs brûlent pour le Seigneur. Et quand nos cœurs brûlent pour le Seigneur, il y aura aussi ce fait que le Seigneur peut raviver aussi son œuvre. L'œuvre, c'est quelque chose qu'on peut voir de l'extérieur. Nous pouvons faire bien des œuvres qui paraissent très très beaux, très belles, qui paraissent être très très utiles. Peut-être elles le sont aussi. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans notre cœur. Toujours. Le Seigneur regarde nos cœurs. Pourquoi est-ce que nous avons fait une œuvre? Pourquoi est-ce que nous avons fait ceci ou cela? Est-ce que c'est par amour pour le Seigneur? Je pense que nous comprenons très bien aussi ce côté-là. Que vraiment dans nos cœurs, il y a un amour pour le Seigneur qui veut le suivre, qui veut le servir aussi. Ravive au milieu, ravive ton œuvre au milieu des années. Ravive ton œuvre, c'est-à-dire Habacuc, il pense à une chose tout à fait spéciale, que Dieu ravive au milieu du peuple, pour le peuple aussi, son œuvre. Une œuvre de grâce, une œuvre de restauration, une œuvre qui les ramène à Dieu, qui les attire à lui, qui leur fait comprendre ce qui leur manque et qui les fait comprendre ce qui plaît à Dieu pour le faire. Dieu a son œuvre et nous pensons quelquefois de nos œuvres que nous pouvons faire. C'est vrai, Dieu nous dit, le Seigneur nous dit aussi qu'il veut avoir des œuvres. Mais est-ce que c'est toujours son œuvre? C'est ce que nous devons aussi voir. Les œuvres que nous pouvons faire, ce doivent être des œuvres qui appartiennent, qui sont de Dieu même, n'est-ce pas? C'est son œuvre. Et nous pouvons peut-être être des petits collaborateurs qu'il veut employer pour quelque chose. Ravive ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, on pourrait se demander qu'est-ce que cela veut dire, au milieu des années. Je pense, on peut avoir une première pensée, c'est que Habacuc a dû penser au début, où Dieu a parlé à son peuple, a choisi son peuple pour lui, et puis aussi la fin, ça sera la gloire dont Habacuc savait quelque chose. Et entre ces deux, c'est maintenant peu avant que la gloire du peuple, la gloire du Seigneur, dans le peuple, le règne royaume des mille ans, alors au milieu, il faut que l'œuvre de Dieu soit ravivée. Et peut-être on peut dire cela aussi pour nous, nous sommes à la fin de l'ère actuelle, à la fin du temps de la grâce, encore peut-être pas tout à fait, mais presque au milieu des années. Est-ce que nous n'avons pas aussi cette demande au Seigneur, accorde-nous d'être plus fidèle, que tu peux raviver au milieu des années aussi ton œuvre? Et j'ai entendu parler un frère aussi sur ce verset, et lui il a expliqué ça encore d'une autre façon en disant peut-être quand on est jeune, on a encore beaucoup d'énergie, on veut bien travailler pour le Seigneur. Quand on est vieux, âgé, la force diminue, mais au milieu, dans les années, oh, je ne peux pas le compter, mais les années 40, 45, 50 ans, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi un travail à faire. Il disait cela d'une façon, peut-être il a visé un certain groupe de frères et sœurs, alors pour un certain âge, alors là, vraiment, nous avons aussi un travail à faire, une œuvre dans le sens que Dieu nous le donne. Être énergique, là encore. Est-ce que nous avons encore cette énergie? Les jeunes, peut-être, ont cette énergie. Le vieux, les âgés, plus, mais au milieu des années. Il nous appelle. Au milieu des années, fais-la connaître. Qu'elle devient visible, qu'elle sera claire, qu'elle sera ouverte. Dieu les connaît, son œuvre, il connaît aussi tout ce qui est fait pour lui. Mais que ce soit vraiment aussi sensible aussi pour d'autres, et que ce soit aussi senti qu'il y a quelque chose au milieu des amis, au milieu des frères et sœurs, et quand il y a un service qui est fait. Je ne sais pas si c'est là comme chez vous ici, mais chez nous, on dit quelquefois vraiment. Alors, il y a toute une sorte de génération au milieu, là, où on ne voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup de travail. Alors, si ce travail est fait, alors c'est visible, c'est sensible, c'est du bien qui arrive pour l'Assemblée. Un appel. Et puis alors, dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Bien sûr, on comprend que c'est surtout, ça concerne surtout la situation dans laquelle l'Habacuc se trouvait, le jugement qui était annoncé par Dieu, dont il a parlé, dont il a entendu ce jugement-là. Il dit, ah, ce jugement que nous allons vivre, ce jugement-là, oh Dieu, tu es quand même un Dieu de grâce. Souviens-toi de la miséricorde. La miséricorde, nous sommes des hommes dans la misère. Nous le reconnaissons. D'ailleurs, c'est ce mot miséricorde, moi, je le trouve toujours très bien, très beau dans la langue, parce qu'elle nous parle des deux côtés. Elle parle de la misère dans laquelle nous sommes, la misère que nous connaissons, chacun peut-être, mais tous ensemble. Et d'autre part, le mot, la deuxième partie du mot, corde, ça nous parle de cœur. Et on pourrait dire peut-être le cœur de Dieu dans notre misère. Il répond à notre misère, selon sa grâce et son amour pour nous. Souviens-toi de la miséricorde. Eh bien, quand il s'agit maintenant d'être vraiment ravivé, est-ce qu'on peut dire ça? Ravivé, être ravivé. Alors, comment est-ce que cela se montre aujourd'hui pour nous? C'est pour cela que j'aimerais bien lire encore dans l'Apocalypse un passage qui nous montre comment Dieu le voit, comme le Seigneur le voit. En quoi il... Chapitre Apocalypse 3, nous savons que dans ces deux chapitres, chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, nous trouvons des épîtres, des lettres que le Seigneur, qui sont envoyées à ces sept assemblées. Et nous savons aussi très bien qu'il y a à la fin encore quatre assemblées qui, en même temps, dans notre temps, sont placés, et il y a une que nous connaissons et que nous aimons beaucoup, et on pourrait dire à laquelle nous aimerions, selon le caractère que le Seigneur décrit, nous aimerions appartenir. Nous ne pouvons jamais dire, c'est à Philadelphie, nous ne pouvons jamais dire que nous sommes, non. Euh, ne pensons pas ainsi. Gardons-nous de penser cela. Mais est-ce que, et ça c'est pour ça que j'aimerais lire quelques versets, est-ce que les traits de caractère que le Seigneur mentionne pour cette église à Philadelphie, est-ce que ces traits de caractère, est-ce que nous en connaissons quelque chose? Est-ce que nous cherchons à les montrer? Est-ce que nous les avons? Attention, c'est le Seigneur qui le sait. Mais est-ce que nous aimons les montrer? C'est là ce qui plairait au Seigneur. J'aimerais donc lire juste et à l'ange, au verset 7, et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne, oui, j'aimerais continuer au verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quelques versets dans lesquels le Seigneur se présente d'abord. Il se présente comme celui que nous devons reconnaître, reconnaître de cœur. Qui est-il? Il est le Saint, il est le véritable. Nous avons affaire avec notre Seigneur qui est saint, avec sa sainteté. Est-ce que nous y pensons toujours? Il y a tant de situations dans lesquelles il serait très nécessaire que nous pensions et n'oublions pas que nous avons affaire avec un Seigneur qui est saint. Est-ce que cela nous caractérise? Nous sommes tristes de ce que nous pouvons voir dans les rassemblements, bien des cas. Peut-être nous sommes nous-mêmes concernés ou nous avons oublié que le Seigneur, que nous avons affaire avec un Seigneur qui est saint, qui voit tout, qui voit très clair, qui voit les cœurs, qui juge aussi ce qu'il voit. Combien de choses sont arrivées dans les rassemblements? Je ne sais pas si c'est le cas en France, je ne connais pas trop, mais je peux dire alors, là chez nous on connaît des choses qui sont très tristes, des choses de mal moral, des choses de mal doctrinal, de comportements qui ne peuvent pas plaire au Seigneur. Combien de d'exhortations connaissons-nous? Nous avons dernièrement lu le troisième chapitre de l'Épître aux Colossiens dans cette étude à peau, et nous avons vu ce qui plaît au Seigneur. Alors d'abord, mortifier quelque chose et puis s'habiller de quelque chose. S'habiller de quelques traits de caractère, est-ce que nous les connaissons? Le Seigneur regarde exactement ce que nous faisons, ce que nous faisons et ce que nous sommes. Il est le Saint, il est le véritable. Est-ce que dans les choses que nous faisons, aussi dans les rassemblements, est-ce que nous pensons toujours au fait que le Seigneur aime la vérité et qu'il nous a donné la vérité? Nous avons la vérité, il est le véritable, c'est-à-dire il est lui-même la vérité, mais il nous a donné aussi ce livre de la vérité. Est-ce que dans les choses qui nous concernent, dans le rassemblement et aussi dans notre propre vie, notre vie individuelle, est-ce que là nous sommes, nous suivons vraiment la vérité? Est-ce que nous connaissons la vérité? Je me rappelle aussi ce passage que l'apôtre Paul écrit à Timothée, des choses desquelles il devait être vraiment convaincu, fortement à son intérieur convaincu. Et comment est-ce que ça peut arriver? Seulement quand on lit avec prière la parole pour apprendre et pour trouver aussi la force de suivre ce que l'on a lu. C'est donc l'amour pour le Seigneur qui est là pour vraiment le faire, pour suivre sa parole, même quand c'est peut-être d'autres ne comprennent pas ou peut-être que nous, cela nous paraît difficile. Et c'est aussi le côté de d'être un témoignage aussi pour d'autres. Est-ce que nous le sommes aussi? Est-ce que nous, comme des parents, nous sommes vraiment des personnes qui cherchent à suivre la parole, la vérité? Est-ce que nous montrons dans notre vie, dans notre comportement, quelques caractères que la parole nous enseigne pour en être un modèle pour d'autres? Est-ce que nous, frères plus âgés, nous sommes un modèle pour les gens? Est-ce qu'ils peuvent voir en nous vraiment que nous avons affaire avec le Seigneur qui est saint et qui est le véritable, qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, et ferme et nul n'ouvrira. Ça c'est très, très beau de voir qu'il y a une porte ouverte que le Seigneur a ouvert. Il nous a montré bien des choses que, dans sa parole que nous pouvons faire, et il nous ouvre aussi la porte pour l'honorer, pour faire ce qui lui plaît. Et nous ne devons pas seulement se restreindre sur le fait d'apporter l'évangile à d'autres, ça c'est vrai aussi, bien sûr, c'est aussi une porte ouverte que le Seigneur a donnée, encore aujourd'hui. Nous avons là aussi certainement une tâche que le Seigneur nous donne. Mais c'est aussi la porte ouverte pour tout ce qui concerne l'enseignement et ce que nous, ou l'enseignement dans les rassemblements. Là aussi, nous avons une porte ouverte par le simple fait que nous pouvons nous réunir et que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui ce privilège de lire la parole, de la voir entre nos mains. Ce n'était pas toujours comme cela. Quand nous réfléchissons un peu dans l'histoire, les gens de l'an 1000, par exemple, ou de 900, quoi. Alors il y a eu des croyants, mais ils n'avaient pas la parole écrite comme cela, ils ne pouvaient pas la lire. Ils devaient l'entendre, mais maintenant Dieu a encore donné une porte ouverte pour cela. Et puis, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Voilà, nous avons parlé tout à l'heure des œuvres. L'œuvre de Dieu, les œuvres que nous pouvons faire, que le Seigneur met devant nous. Nous connaissons ce passage en Éphésiens 2, où il y a des œuvres à accomplir pour un croyant, pour quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui veut le suivre et qui l'aime. Dieu lui donne des œuvres, il les met, pour ainsi dire, devant ses pieds pour y marcher, pour marcher dans ces bonnes œuvres, qui sont préparées d'avance même. Nous les voyons, nous les faisons. Ici, quant à l'église de Philadelphie, le Seigneur dit ce beau témoignage, je connais tes œuvres. Il dit aussi, tu as peu de force, tu as peu de force, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire ce qu'on entend quelquefois. Je n'ai pas de force. Ah non? Le Seigneur dit, tu as peu de force, mais il y a de la force et moi je veux te fortifier. D'où vient cette force que nous pouvons avoir? Ce peu de force peut-être? Il peut nous donner la force beaucoup davantage encore. Ça dépend de notre fidélité. Ensuite, nous avons, et maintenant viennent quatre points, je trouve, que le Seigneur voit chez Philadelphie. Et j'aimerais bien les relier avec ce que nous avons lu en Habacuc, ravive ton œuvre. Ravive ton œuvre. Est-ce que vraiment, voilà la première chose, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Nous savons que, hier encore, nous avons justement pensé à Strasbourg, pensé à ces deux passages que nous connaissons bien de Jean 14, où le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et avec la conséquence que le Seigneur aussi se montre à lui, qu'il y aura aussi une récompense dans le fait que le Seigneur use la communion avec lui, et lui donne la paix, lui donne la joie. Ça, c'est une chose, le commandement. Mais deux versets plus loin, le Seigneur ne parle pas du commandement, mais il parle de sa parole. Tu as gardé ma parole. Est-ce que c'est la même chose? On pense quelquefois, quand on demande aux enfants, on l'a fait, alors là, oui, c'est ça, ce que le Seigneur a dit, oui, mais c'est davantage. Et alors c'est comprendre aussi là où nous n'avons pas un commandement. Le Seigneur nous a donné les commandements. Il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Ce ne sont pas les 10 commandements de l'Ancien Testament. Ça, c'est clair que tout ce que nous trouvons dans les 10 commandements, cela est, je dirais, ça c'est normal qu'on comprenne cela. Et pourtant, il y a aussi là des choses que nous oublions peut-être, quand il s'agit vraiment de donner à Dieu la première place. Ah, ça, peut-être, c'est aussi une partie des 10 commandements. Mais alors aussi, le Seigneur nous a donné des commandements pour nous aujourd'hui. Je vous donne un nouveau commandement, que vous aimez l'un l'autre. Est-ce que nous le faisons vraiment? Tu as gardé ma parole? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que j'ai de l'amour pour mon frère qui m'a fait mal? Est-ce que j'ai de l'amour pour celui qui est un peu désagréable? Oui, alors j'ai de l'amour pour lui parce qu'il est aimé par mon Seigneur, parce qu'il est mon frère, parce qu'elle est ma sœur. C'est pour cela que j'ai de l'amour. Est-ce que je montre cet amour? Oh, il peut se montrer de différentes manières. Il peut se montrer aussi dans la manière de dire quelque chose qui peut-être d'abord ne lui plaît pas. Mais alors, parce que c'est pour son bien, parce que je vois que le Seigneur me dit, tu devais aller vers lui pour lui parler, parce que quelque chose est là qui interrompt la joie de la communion pour ce frère. Communion avec le Seigneur. Oui, gardez la parole. C'est bien comprendre ce qui plaît au Seigneur. Gardez la parole. C'est avoir l'oreille au cœur du Seigneur. Je prends l'exemple de l'apôtre Jean, qui était vraiment tout près du Seigneur, pour entendre, pour comprendre et pour faire. Tu as gardé ma parole, c'est ce que le Seigneur dit à cette assemblée. Et deuxième point, tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire, tu m'as reconnu vraiment. Est-ce qu'on peut renier le nom du Seigneur? Est-ce que Pierre, il a renié le Seigneur, oui? Mais renier le nom du Seigneur, c'est aussi quand nous faisons n'importe quoi, ce qui nous plaît. C'est que nous ne reconnaissons pas qu'il est le Seigneur, qu'il a tous les droits. Alors je fais ce que je veux, je renie le nom du Seigneur. Je ne le reconnais pas comme celui qui a vraiment l'autorité au-dessus de moi et au-dessus de ma vie. Connaître le Seigneur, ne pas renier son nom. Nous avons alors encore dans le verset 10, nous avons lu un autre point qui appartient aussi à cette que notre vie pour Dieu soit ravivée. Tu as gardé la parole de ma patience. La parole de la patience. En quoi est-ce que le Seigneur est patient? Or, nous avons un passage dans le deuxième épître aux Thessaloniciens où il est parlé aussi de la patience de Christ. Nous voyons que, je crois que c'est aussi le sens de ce passage, que nous voyons que le Seigneur attend vraiment aussi le moment où il va venir pour chercher son Église. Sa patience, il demande aussi à nous d'être patients, d'avoir une patience telle que nous la trouvons d'ailleurs aussi chez l'épouse dans la fin de l'Apocalypse. Nous connaissons tous, ici le Seigneur le dit pour une première fois, il le dira encore trois fois dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, « Moi, je viens bientôt. » Il le dit aussi, « Je viens bientôt. » Alors, là, l'épouse, à la fin de l'Apocalypse, quand le Seigneur dit « Je viens bientôt », elle répond. Et elle dit « Amen, viens Seigneur ». Elle n'ajoute pas le mot « bientôt » parce que ça pourrait... C'est le côté du Seigneur, n'est-ce pas, de dire « bientôt ». C'est aussi son moment quand il viendra. Et nous pouvons être sûrs qu'il viendra au moment vraiment... Le bon moment viendra. Lui, il veut chercher son Église, son épouse, parce que son amour l'appelle. Oui, la parole de ma patience. Et puis, avec une promesse, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir. C'est quelque chose que nous pouvons aussi tenir ferme dans notre cœur. Je sais que maintenant, parmi la chrétienté, parmi des croyants, il y a aussi cette question. Est-ce que nous sommes déjà un peu dans les épreuves qui vont venir, dont l'Apocalypse parle? Oh, il y a des maladies. Oh, il y a une maladie qui a duré très longtemps. Ah, il y a une guerre qui a recommencé, on ne l'aurait pas cru. Oh, il y a encore tout ce mal qu'on voit. Est-ce que c'est déjà l'apostasie qui se montre et qui est déjà arrivée? Parce que c'est là le point décisif, pour ainsi dire, qui nous montre alors que le Seigneur va venir. Que les épreuves sont là. Mais la parole nous dit, comme ici dans ce passage, mais aussi dans d'autres, nous pouvons le voir, que les croyants... que l'Église sera gardée de l'heure de l'épreuve. Le Seigneur va la chercher avant que toute cette grande épreuve qui vient sur les hommes qui habitent la terre, c'est-à-dire qui sont dans la maison sur la terre, qui n'ont rien d'autre que cela. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai aussi dans notre cœur. Et c'est une question premièrement d'enseignement. Alors nous avons peut-être aussi quelquefois le bon devoir d'instruire encore des personnes que nous connaissons, qui sont croyants, mais qui croient qu'ils doivent encore passer par ces épreuves. Ah non, le Seigneur nous prendra avant. Et puis nous avons cette patience du Seigneur d'une part, et puis alors, à la fin, justement, je viens bientôt. Voilà ce qui caractérise cette église de Philadelphie. C'est tout cela, je répète, garder sa parole. C'était la première chose que nous avons ici. Ne pas renier son nom, mais garder son nom, aimer son nom, reconnaître... Le reconnaître aussi comme le Seigneur. Troisième point, garder la parole de sa patience. Et quatrièmement, la venue du Seigneur. Tout cela doit être vivant dans nos cœurs. Et Et le motif pour tout cela, c'est bien sûr l'amour du Seigneur pour nous et en réponse, notre amour pour lui. Et le Seigneur nous dit cela à son église de Philadelphie. Pourquoi? Parce qu'il veut la soutenir, il veut aussi lui donner de la joie de ce que le Seigneur la voit et de ce que le Seigneur l'aime et de ce que le Seigneur est aussi, satisfait peut-être un peu trop, mais il se réjouit quand il voit les traits de caractère que cette Église montre. Et chers amis, sans dire que nous sommes, non, que nous aimons porter des caractères de cette Église-là, que le Seigneur puisse arriver à cela et ainsi raviver notre cœur, notre amour pour lui, notre joie dans sa présence, dans sa communion. Et encore, je n'ai pas encore dit ça tout à l'heure quand nous avons parlé de garder la parole, aussi le fait que le Seigneur a dit, là où les deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est une vérité que nous connaissons de sa parole, qu'il a dit lui. Est-ce que cela nous attire encore? Est-ce que ça nous touche encore? Et peut-être cette courte pensée, nous voyons quelquefois des frères, des sœurs qui disent, ah, je ne peux plus venir. Non pas parce qu'ils sont malades, non, je ne peux plus venir. Il y a tant de choses qui ne plaisent pas. Il y a tant de choses qui ne vont pas comme il faut. Il y a tel frère qui fait ça, telle sœur qui fait ça. Et il y a aussi des querelles. Alors malheureusement, ça arrive, ça existe. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour délaisser le moment où le Seigneur rassemble autour de lui les siens? Si nous avons bien compris ce que cela veut dire d'être assemblés en son nom et de ce qu'il dit, je suis là au milieu d'eux, c'est-à-dire que je suis le centre. Est-ce que nous oublions le centre? Non, nous ne voulons pas oublier qu'il est le centre, qu'il s'agit de lui et de ce que nous venons dans les réunions, autour du Seigneur, à cause de lui. Non pas à cause du frère A et du frère B et de la sœur C. Ce n'est pas ça. Et nous ne délaissons pas ces réunions pour n'importe quelle raison. Une raison que nous avons, nous, dans notre cœur, c'est pauvre. Et que nous disons, ah, ça, ce n'est pas possible. Je connais des amis que j'aime bien, mais qui restent à la maison en disant, je ne peux plus venir. Sans que ce soit une question de maladie. Ah non, aimons le Seigneur, aimons aussi la place où le Seigneur a dit, là, je suis au milieu de vous. Au milieu, ça veut dire aussi, j'ai l'autorité. Ça veut dire aussi, regardez à moi, je suis au milieu de vous. Et le Seigneur est celui qui donne tout ce dont nous avons besoin. Je me rappelle aussi une sœur qui ne pouvait plus comprendre. Elle était sourde. Elle était toujours là. Et on lui a demandé, mais alors, vous êtes là, alors ce que le frère a dit là cet après-midi, tu n'as rien entendu, ce n'était rien pour toi. Ah, j'ai été béni. Et comment? De la présence du Seigneur. J'étais là, chez lui. J'ai senti que j'étais chez lui. Et j'ai vu que la parole de Dieu était ouverte. Vous entendu peut-être seulement, mais la parole est ouverte. Le Seigneur parle. Voilà le grand moment aussi pour elle. C'est pour cela qu'elle n'a jamais abandonné ou délaissé une de ses réunions. Ayons cet amour pour le Seigneur, de rechercher aussi sa présence. N'oublions pas que chaque fois que nous sommes là, le Seigneur, d'ailleurs, s'est réjoui parce qu'il voit qu'il y a un cœur qui bat pour moi. Nous avons dit, aussi chanté dans notre cantique, que vraiment alors, nos cœurs brûlent pour lui. Mais comment est-ce que nous pouvons dire notre cœur brûle pour lui, que nous ne voulons pas être là où il est, où il a promis sa présence? Quand nos cœurs brûlent pour lui, alors nous brûlons aussi d'être là où le Seigneur a promis être au milieu des tiens. Et peut-être il y en a d'autres pour lesquels ce n'a pas une grande valeur. Que cela ait une valeur très grande pour chacun de nous, d'être là où le Seigneur est. Dans notre vie, dans la vie de l'Assemblée, lui doit être le centre. Et s'il ne l'est pas, que le Seigneur nous ravive, qu'il nous donne davantage d'amour pour lui. Il a tant fait pour nous, il s'est livré lui-même pour nous. Il est allé un chemin très douloureux jusqu'à la mort. Il a pris notre jugement sur lui. N'oublions jamais cela. Quand cela est vivant devant nous, alors ça sera aussi. Les autres questions se régleront assez vite. Et dans nos cœurs et dans nos rassemblements ensemble, nous serons ravivés. Vraiment, c'est ce que le Seigneur veut bien faire chez vous, chez vous, chez moi. Que vraiment, nous brûlons pour lui.
Aussi la deuxième et la troisième du 107.
107, deuxième et troisième strophe.
Oh, save all not the
244, deuxième strophe.